Excusez-moi, non, la prestation de travail.
Merci. Donc, le contrat de travail entre protection et recherche de l'égalité, contrairement à la fiction de l'égalité des volontés privées, qui se trouve à la base du Code civil, les parties au contrat de travail, en fait, ne sont pas égales. Et c'est ce qui justifie ce qu'on appelle au début du XXe siècle l'interventionnisme. L'État protège le salarié en édictant des règles d'ordre public dont le caractère impératif s'oppose à l'ordre privé qui naît du contrat, en plaçant les relations de travail sur un plan collectif, 1884, statut des syndicats, 1919, convention collective, 1946, droit de grève, en offrant, avec les conseils de prud'homme, des recours bon marché. Ce droit ne prétend pas vraiment à l'égalité individuelle, mais du moins à réaliser un certain équilibre entre les classes sociales. À compter des années 80, la montée du thème de l'exclusion alimente une rhétorique opposée à celle de la protection des salariés. Les salariés sont inclus dans la société, du moins la majorité d'entre eux, ceux qui ont un emploi stable, par le droit du travail. Mais leur protection est devenue si forte qu'elle dissuade les entreprises d'embaucher. La protection des salariés serait ainsi l'une des causes du chômage. Cette thèse est très intuitive, elle n'est pas démontrable, et au contraire, les comparaisons internationales empiriques semblent l'infirmer. Depuis quelques années, on assiste cependant à un reloucage de l'argumentation. C'est ainsi qu'un rapport important comme le rapport Cahuc-Cramartz, pour justifier une déréglementation du droit du licenciement économique, c'était la proposition de contrat de travail unique, se fonde sur la nécessité de lutter contre la discrimination. L'ouverture internationale des marchés met la France et met l'Europe continentale de l'Ouest en concurrence avec des pays à bas salaires et à faible niveau de protection. Sur fond de chômage de masse, dans le contexte de rétraction qu'offre un avenir difficile, les argumentations à base d'exclusion et de discrimination contribuent à justifier la pression que subit le droit du travail. Si le droit protecteur a des effets néfastes, ne vaudrait-il pas mieux un marché dérégulé dont le fonctionnement serait seulement corrigé par les droits de l'homme ou les droits de la personne? Le droit du travail considérait le salarié comme un travailleur, membre d'une classe. On parle, Georges Selle, de droit ouvrier, en 1922, ou, jusqu'aux années 50, de législation industrielle. La politique publique de protection, qui traduisait cette vision des choses, se justifie en moins. Le travailleur cède la place à la personne. Le salarié, chaque fois qu'il le peut, se présente comme victime de harcèlement ou de discrimination. Son appartenance au salariat passe au second plan. C'est un changement de pied. Mais ce changement de pied, dans un premier temps au moins, peut séduire les avocats et même les syndicalistes parce qu'il permet de mettre en accusation des employeurs. Cependant, en mettant en scène victimes et coupables, on renoue avec une approche traditionnelle de droit civil. La victimisation se situe en effet sur un terrain qui pourrait très bien convenir au rapport entre égaux. Le mouvement qui passe du travailleur à la personne délaisse la problématique de la subordination constitutive par nature d'inégalité. Et elle affaiblit par conséquent le principe d'une protection du travailleur. L'évolution qui ramène le rapport de travail à un rapport entre victimes et coupables autorise à jouer de l'égalité contre la protection. Et ce sont les deux points, victimes et coupables, égalité contre protection, que je voudrais aborder. Tout d'abord, victimes et coupables. Et je voudrais citer un éminent médecin du travail qui a été, je crois, membre du Conseil économique et social et qui était à l'origine d'un des premiers projets de loi sur le harcèlement moral dans les années 90. Les salariés que je rencontre dans mon cabinet souffrent. Ce sont donc des victimes. Puisqu'il y a des victimes, il y a des coupables. Et c'est une affirmation évidemment un peu effrayante pour un juriste, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de souffrances qui n'ont pas de responsable. Et pourtant, elle se trouve à l'origine d'une importante évolution de notre législation. Il est évidemment assez malaisé pour le salarié de prendre la posture de la victime, sans devoir parfois aussi assumer celle du coupable. Le salarié victime, c'est évidemment la figure la plus familière. Il y a 20 ans, le terme de harcèlement ne figurait même pas à l'index des manuels de droit du travail. Le mot n'était pas utilisé, il n'existait pas dans l'univers de la discussion entre juristes. La loi du 2 novembre 1992 sur le harcèlement sexuel est la première à employer ce terme, mais elle incrimine encore l'abus d'autorité. La rédaction actuelle des textes, pour l'essentiel, date d'une loi de 2002. C'est cette loi qui introduit dans le Code du travail la notion de harcèlement moral. Et de façon très symbolique, le nouveau Code du travail, adopté en 2007, rassemble les dispositions relatives au harcèlement dans un titre du chapitre préliminaire du Code. Les textes relatifs au harcèlement sexuel sont relativement peu utilisés. En revanche, le harcèlement moral est devenu omniprésent dans l'argumentation des salariés. C'est vrai jusque devant la Cour de cassation. Si l'on fait tourner un moteur de recherche sur Légifrance, on trouvera une centaine d'arrêts depuis le début de l'année où le terme est employé, mais souvent dans des affaires où il figure dans le pourvoi et n'apparaît même pas dans la décision qui est rendue. Pourquoi ? Il y a un facteur d'explication objectif, très certainement, qui est l'intensification du travail dans un contexte de recul des régulations collectives et de la désyndicalisation. Ensuite, le développement des services, de technologies nouvelles, joue certainement un grand rôle. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un facteur d'explication idéologique. Le harcèlement moral est invoqué, c'est la différence avec les États-Unis, où les salariés n'ont pas d'autre recours et sont obligés de se servir du harcèlement ou de la discrimination parce qu'il n'y a pas de droit du travail. Le harcèlement moral est invoqué dans de nombreux cas où les salariés disposent pourtant d'autres arguments très solides de droit du travail, par exemple dans le contentieux du licenciement économique. Je crois que c'est parce que le harcèlement est une forme de violence. Or, l'interdiction de la violence est indispensable au rapport de marché. Sur un marché équitable, et là ça n'a rien à voir avec le droit du travail, c'est vrai sur tous les marchés, l'intimidation, la violence, tout comme d'ailleurs la discrimination, doivent être interdits. Le droit civil des contrats donne réparation aux victimes de fautes. Ce mécanisme, sans doute, paraît à beaucoup de salariés plus porteur que le droit du travail. Droit du travail qui impose aux employeurs des responsabilités, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce que la subordination est ce qu'elle est. Le droit du harcèlement, je crois qu'il faut le rapprocher un instant du renforcement qui est par ailleurs très souhaitable, du renforcement très considérable de la protection du salarié malade ou inapte, que l'origine de son affection soit professionnelle ou ne le soit pas. La réforme de l'entreprise n'est plus qu'un souvenir. Qui pourrait, à l'heure de la mondialisation, penser à réformer les rapports de pouvoir dans l'entreprise ? Le droit des licenciements économiques est souvent stigmatisé. La protection des victimes ne cesse de s'affirmer. Mais si les employeurs doivent mettre chapeau bas devant les victimes, c'est à double tranchant. Les salariés, eux aussi, peuvent être déclarés coupables. Le salarié coupable, pendant longtemps, les textes de droit pénal qui incriminaient spécifiquement les salariés étaient extrêmement rares. Il y avait le délit d'atteinte à la liberté du travail qui remonte à 1864, la violation des secrets de fabrique et la corruption de salariés qui remonte à 1919. À l'origine conçu comme un abus d'autorité, le harcèlement sexuel, depuis 2002, peut être caractérisé entre égaux. L'article L1153-1 du Code du travail parle des actions de harcèlement de toute personne. Et il peut donc aussi s'agir du comportement d'inférieur envers un supérieur. Si les paysans de Balzac étaient jugés pour harcèlement, certainement ils seraient condamnés parce qu'ils ont vraiment rendu la vie impossible au seigneur. Quant au harcèlement moral, il a dès l'origine été déconnecté de toute relation hiérarchique. Par conséquent, les sanctions pénales du harcèlement visent les salariés. Et il faut sans doute ici aussi faire un rapprochement avec la directive 89-391 relative à la santé et à la sécurité, directive communautaire bien sûr, santé, sécurité au travail, et faire référence à sa transposition. Les textes sur la santé et la sécurité au travail font émerger une notion d'obligation de sécurité du salarié. Or, c'est une disposition tout à fait nouvelle dans le Code du travail. Jusqu'à présent, jusqu'aux années 80, à la fin des années 80, on pensait que le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire de l'employeur, et puis dans les cas extrêmes, les délits d'imprudence de droit commun, suffisait à assurer le respect par les salariés des règles de sécurité. N'importe qui peut être victime. Par conséquent, la victimisation engendre un droit de structure plus égalitaire. Or, si l'employeur et le salarié sont à égalité, la protection peut sembler moins nécessaire. Égalité contre protection, c'est le deuxième point que je veux maintenant aborder. Dans la conception traditionnelle, celle que la Chine est en train d'adopter, La conclusion du contrat de travail déclenche l'application d'un statut légal, d'ordre public et de convention collective, impérative. Quand j'explique ça à des étudiants américains, je dis c'est comme quand on installe un logiciel sur un ordinateur, une fois qu'on a cliqué, on n'y peut plus rien, ça s'installe tout seul. Donc quand on conclut le contrat de travail, on est soumis à la loi et on est soumis aux conventions collectives. C'est impératif. Inversement, l'illusion renaissante de l'égalité entre employeurs et salariés pourrait autoriser la renonciation individuelle à la protection, l'opting out. Certaines règles protectrices sont en outre accusées de produire un effet discriminatoire. L'obsession de l'égalité entre salariés peut conduire à les remettre en question. L'illusion de l'égalité. Au plan communautaire, la France s'oppose à la Grande-Bretagne à propos de l'opting out, notamment de la possibilité donnée aux salariés de renoncer dans son contrat de travail au respect de la durée maximale du travail. Mais de façon, certes, très embryonnaire, l'opting out n'est pas absent du droit français. Au stade de l'embauche, avec la multiplication des formes d'emploi alternatives au contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le contrat pour la réalisation d'un objet défini de la loi du 25 juin 2008, voire le statut de l'auto-entreprise de la loi du 4 août 2008. En cours d'exécution du contrat, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jour, c'est un contrat un peu barbare, mais de plus en plus fréquent, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, loi du 20 août 2008. Le résultat, au fond, est ponctuel, mais n'est pas si éloigné de l'opting out anglais en matière de durée du travail. Au moment de la rupture du contrat, la nouvelle possibilité de rupture conventionnelle de la loi du 25 juin 2008 pourrait, tout dépendra de l'interprétation que donnera la Cour de cassation, devenir un opting out du droit du licenciement. De même, la dernière mouture du 19 mai 2009 de la proposition de loi Maillé visant à faciliter le travail du dimanche se fonde très largement sur le fait que le salarié est individuellement consenti. Or, c'est le contraire du droit du travail traditionnel. Lorsqu'on parle d'ordre public, ça veut dire que le consentement du salarié n'y peut rien. Il y a des règles que le groupe impose, on ne peut pas y renoncer. L'obsession de l'égalité est un autre facteur de remise en question. La problématique ici n'est pas purement française. Elle sous-tendait aussi bien le projet de contrat de travail unique, qui a été si discuté au moment de l'élection présidentielle de 2007, que le livre vert « Moderniser le marché du travail » qui a été rendu public par la Commission européenne fin 2006. En France, l'initiative vient plutôt d'économistes néoclassiques, Cahuc Cramart, Blanchard Tirole, Cantu, une série de rapports qui ont été rendus publics il y a à peu près 2 ans. Mais ces rapports rejoignent des travaux de l'OCDE, et en Italie, on trouvera des idées analogues sous la plume de mon collègue, le sénateur Pietro Icchino. On admet dans ces travaux qu'il n'y a pas de corrélation entre le chômage et la stabilité juridique de l'emploi. Il reste que le marché du travail est un marché dual. D'un côté, les contrats à durée indéterminée, de l'autre, les précaires. Or, ceux qui sont précaires ont du mal à cesser de l'être. Et statistiquement, parmi les salariés stables, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les groupes les plus forts, les nationaux, les personnes d'âge moyen, sont surreprésentés. Comme l'écrit la Commission européenne en 2006, une législation de protection de l'emploi trop rigide tend à réduire le dynamisme du marché du travail en aggravant les perspectives d'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs âgés. Le dualisme qui résulte de la coexistence de contrats stables et de contrats précaires est discriminatoire. Une certaine déréglementation est donc souhaitable. C'est l'argumentation qui est présentée. Il est difficile de ne pas rapprocher cette argumentation de la présentation qui a été faite il y a à peu près un mois, de la grève des travailleurs de l'énergie anglais. Cette grève a été présentée dans toute l'Europe comme une grève raciste, et ceux qui, comme moi, lisent Le Monde diplomatique ont pu y consulter ce mois-ci un article du Guardian qui dit exactement le contraire, qui explique que l'enjeu de la grève n'a rien à voir avec la nationalité des travailleurs et tout à voir avec le dumping social qui résulte de la prestation de services international. Or, contrairement au droit français, le système anglais des conventions collectives est tout à fait incapable de réguler l'emploi à bas salaire de travailleurs portugais ou italiens. Il est évidemment légitime de chercher à éliminer la violence des rapports de travail et de lutter contre la discrimination. Et je suis le premier convaincu qu'il est nécessaire de relancer à la fois la recherche et les efforts dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Cependant, le point de vue qui était celui des républicains modérés, ou progressistes ou solidaristes du début du XXe siècle. Je pense à des auteurs comme Paul Pick, Georges Sell, qui a été secrétaire général de l'OIT et l'un de ses fondateurs, rédacteur du traité de Versailles, Henri Capitan, Paul Kuch. Leur point de vue n'est pas devenu inexact. Le rééquilibrage des relations de travail ne peut se fonder principalement sur des mécanismes individuels qui relèvent du droit des personnes. Le fait que le salariat ne soit plus chargé d'espoirs millénaristes n'y change rien. Le contrat de travail appelle des régulations collectives, et en ce sens, il me semble que le droit du travail devrait demeurer un droit de classe. Je vous remercie.